Bion à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 14 mars 2024. Élection présidentielle en Russie à partir de demain vendredi jusqu'à dimanche. Vous saurez tout dans cette édition sur les adversaires de Vladimir Poutine.
L'opération spéciale en Ukraine, c'est aussi un des enjeux donc que recouvre cette élection parce que les Russes seront appelés à se prononcer par rapport à ce conflit.
Kemal Afanian, observateur de la présidentielle russe, nous situera sur les enjeux de ce scrutin dans la partie magazine. Le Kenya affirme qu'il mènera sa mission de police en Haïti une fois qu'un conseil présidentiel aura été installé. En Guinée, un nouveau gouvernement a été dévoilé hier. Il comprend 29 ministres, dont 6 femmes. Au Nigeria, le gouvernement espère de verser une rançon aux auteurs des récents enlèvements. En Côte d'Ivoire, des aides ont été débloquées par le gouvernement pour reloger les victimes des expulsions massives à Abidjan. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Et c'est aujourd'hui jour de vote, c'est jour de vote demain en Russie. Le président Vladimir Poutine a appelé aujourd'hui les électeurs, y compris dans les régions annexées de l'Ukraine, à s'unir pour déterminer l'avenir de la Russie en votant lors de l'élection présidentielle prévue demain. L'élection russe, lors de laquelle Vladimir Poutine devrait remporter un cinquième mandat, est organisée du 15 au 17 mars. Nous y reviendrons, je l'ai dit, dans la partie magazine. Crise en Haïti, le président kényan William Ruto a indiqué mercredi avoir assuré aux États-Unis que le déploiement de policiers kényans sur l'île va intervenir lorsqu'un conseil présidentiel de transition aura été mis en place. Le point avec Rosine Monizero.
William Ruto a dit mercredi avoir discuté avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken sur les derniers développements et souligné l'engagement du Kenya à mener à bien cette mission soutenue par l'ONU. Monsieur Blinken m'a informé qu'un nouveau conseil présidentiel sera formé sous peu pour gérer la situation en Haïti, a déclaré Monsieur Ruto sur les réseaux sociaux. Le Kenya a annoncé mardi suspendre l'envoi de policiers en Haïti au lendemain de la démission du premier ministre haïtien Ariel Henry. Les États-Unis avaient immédiatement réagi en estimant ne pas voir de raison de retarder cette mission. Lundi, lors d'une réunion d'urgence en Jamaïque, la communauté des Caraïbes, l'ONU et plusieurs autres pays comme les États-Unis et la France ont demandé la mise en place d'un conseil présidentiel de transition. Les partis politiques et personnalités haïtiennes s'efforçaient mercredi de s'accorder sur la composition d'autorité de transition afin de tenter de rétablir un semblant de stabilité dans le pays miné par les gangs.
Les Nations Unies vont mettre en place un pont aérien entre Haïti et la République dominicaine voisine pour permettre la fluidité de l'aide humanitaire vers le pays en crise, a annoncé la mission de l'ONU en Haïti. La mission a aussi précisé qu'une partie du personnel allait être réinstallée temporairement à l'extérieur et que l'arrivée d'autres membres du personnel de crise était attendue. La Chambre américaine des représentants a adopté mercredi une proposition de loi qui prévoit l'interdiction de TikTok aux États-Unis si le réseau social ne coupe pas les liens avec sa maison mère, ByteDance, et plus largement avec la Chine. C'est un développement majeur pour la plateforme, même si l'issue du vote à venir au Sénat reste incertaine. À Gaza, le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas a fait état hier de 88 morts et 135 blessés au cours des dernières 24 heures. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé dans une déclaration mercredi que l'invasion terrestre de Rafah était essentielle pour atteindre les objectifs de la guerre. La médiation internationale n'a pas abouti jusqu'à présent à un accord de cessez-le-feu. Israël réclame que les otages soient libérés en échange des Palestiniens qu'il détient et le Hamas demande la fin de la guerre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine en Guinée, la junte au pouvoir a nommé un nouveau gouvernement mercredi. Le décret de nomination de la nouvelle équipe a été lu à la télévision d'État hier soir. Eric Manirakiza.
Le nouveau gouvernement guinéen comprend 30 membres, dont le premier ministre Amadou Ouriba. Il comprend 6 femmes. Un grand nombre d'entrants, la moitié, fait ses premiers pas dans des fonctions ministérielles. Le ministère de la Justice est confié à Yaya Kairaba Kaba, inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires qui remplace le très médiatique Alphonse Charles Wright. Le secteur stratégique des mines est désormais sous la responsabilité de Bouna Sila, ancien patron de la société d'État qui a géré les projets d'infrastructure sur le projet géant de minerais de fer de Simandou. Il remplace Moussa Magasuba. Les départements de la Défense, de la Sécurité et des Affaires étrangères n'ont pas changé de titulaire. Le général Aboubakar Sidiki Camara conserve ainsi la Défense nationale, de même que Bachir Diallo à la Sécurité. Maurice Anda Kouyaté est reconduit aux Affaires étrangères. La plupart des nouveaux ministres sont à majorité issus de l'administration publique et visiblement, la junte a voulu limiter l'influence des partis politiques dans ce nouveau cabinet.
Le ministre de l'Information, Mohamed Idriss, a déclaré.
Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a ordonné aux forces de sécurité de ne pas payer de rançon pour la libération de plus de 250 élèves enlevés par des hommes armés la semaine dernière. Les détails avec Nanit Talani.
Le ministre de l'Information, Mohamed Idriss, a déclaré hier à la presse que le président Bola Ahmed Tinubu a expressément demandé aux forces de sécurité qui sont à la recherche des élèves kidnappés de s'assurer que pas un centime ne soit versé en guise de rançon. Selon des proches des victimes, les ravisseurs ont exigé le paiement d'un milliard de naira, soit plus de 620 000 dollars, pour la libération des élèves enlevés le 7 mars dans leur école du village de Kuriga, dans l'état de Kaduna. Mardi, des hommes armés ont enlevé des dizaines de personnes dans un autre village à environ 150 km de Kuriga. Il y a deux semaines, plus de 100 femmes et enfants ont été kidnappés dans un camp de déplacés dans l'état du Borno. Samedi, au moins 15 élèves d'une école islamique dans l'état de Sokoto ont été enlevés par des hommes armés, d'après des sources locales. Une loi de 2022 interdit de remettre de l'argent aux ravisseurs. Les victimes sont généralement libérées peu de temps après, à l'issue de négociations avec les autorités locales, mais le gouvernement a toujours nié avoir payé une rançon.
La Côte d'Ivoire a pris des mesures pour reloger les habitants des deux zones les plus touchées près d'Abidjan qui ont été récemment victimes d'expulsions massives et de démolitions de leurs maisons, a annoncé le gouvernement. Le point avec Dili Diko.
Le porte-parole, Amadou Koulibaly, a déclaré que le programme a été lancé pour soutenir les personnes affectées par les expulsions et pour éviter qu'elles ne soient réinstallées dans de nouvelles zones à haut risque. Le gouvernement va financer 250 000 francs CFA par maison pour un total de 697 millions de francs CFA, a ajouté M. Koulibaly. Le programme va concerner les habitants des quartiers de Boribana et de Jesco, mais aucun quartier ne sera laissé pour compte, a-t-il précisé, sans annoncer de date de mise en œuvre de ces mesures. Le gouvernement a aussi mis à disposition de nouvelles aides à la construction et de parcelles avec un bail de 20 à 25 ans pour un loyer de 10 000 francs CFA par mois. Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien, Abidjan compte une trentaine de bidonvilles situées dans des zones à risque et exposées en permanence aux inondations et glissements de terrain qui ont causé la mort de plus de 340 personnes depuis 2005.
Le Libéria s'apprête à commémorer les 10 ans de l'épidémie d'Ebola. Des dizaines de personnes se sont rassemblées mercredi pour nettoyer des tombes sur le plus grand site d'enterrement réservé aux victimes de la fièvre hémorragique, alors que le pays approche des 10 ans de l'apparition du virus dans le pays pour la première fois. Le Libéria a été durement touché par la pandémie d'Ebola qui a fait rage de 2014 à 2016 et a tué 4810 personnes rien que dans ce pays, petit pays d'Afrique de l'Ouest. Un tribunal rwandais a rejeté mercredi la demande de restauration des droits civiques de Victoire Ingabire, figure de l'opposition au président Paul Kagame, une décision qui l'empêche de se présenter à la présidentielle rwandaise du 15 juillet. L'opposante de 55 ans, qui ne peut faire appel de cette décision avant 2 ans, avait été déchue de ses droits après la condamnation en 2013 à 15 ans de prison pour notamment minimisation du génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts. Et puis au Gabon, 9 corps, dont ceux de 4 adolescents de 13 à 16 ans, ont été repêchés depuis lundi sur les plages de Libreville à la suite de noyades lors de grandes marées d'équinoxe, a annoncé mercredi le ministère gabonais de l'Intérieur. Des disparitions avaient été signalées dimanche, alors que le bord de mer est très prisé par les familles en cette période de forte chaleur. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Airtel Africa va introduire en bourse sa filiale Airtel Monnaie d'ici fin 2024. Le groupe hésite entre des places boursières aux Émirats Arabes Unis, au Royaume-Uni ou en Europe. L'annonce fait suite à 100 millions de dollars d'investissement du géant américain Mastercard dans Airtel Monnaie. Selon Bloomberg, plus de 836 milliards de dollars ont transité par le mobile monnaie en Afrique en 2022, soit 66% des transactions réalisées dans le monde. Selon la Commission de régulation du secteur financier en Afrique du Sud, une soixantaine de licences vont être accordées aux plateformes de transactions sur les crypto-monnaies d'ici fin mars. L'initiative vise à intégrer les crypto-actifs dans le cadre réglementaire financier du pays. Plus de 300 fournisseurs de services en crypto-actifs ont sollicité ces licences. L'Afrique a enregistré 117 milliards de dollars de transactions sur les crypto-monnaies entre juin 2022 et juin 2023. Selon l'association bananière du Cameroun, les producteurs de bananes du pays ont exporté 15 248 tonnes en février, soit une baisse de 937 tonnes et de près de 6% par rapport à la même période l'an dernier. Cette baisse survient malgré la venue en juin d'un nouveau producteur sur le marché camerounais, la compagnie des bananes du Mondoni. Les exportations de la société des plantations du Haut-Penja ont chuté de plus de 7% en février.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jean-Roger, bonjour à tous.
Les rencontres de la Basketball Africa League se poursuivent à Pretoria.
Oui, un seul match ce jeudi à la Sandbet Arena de Pretoria en Afrique du Sud, où se jouent les rencontres de la conférence à Kalahari, les Marocains de Fus de Rabat et les Angolais de Petro, déjà qualifiés pour les playoffs, s'affrontent. Les matchs de cette conférence Kalahari qui ont débuté samedi dernier vont se poursuivre jusqu'à ce dimanche 17 mars. Que retenir jusqu'ici sur place à Pretoria, où il commente les rencontres Malik Dao, ancien champion d'Afrique de basketball et actuel journaliste, fait le point.
Quand on a de l'alchimie, quand on est bien préparé, on peut être une excellente équipe. Et c'est ce que le FUS de Rabat est en train de nous montrer. On a des gens qui se connaissent depuis des équipes de jeunes au Maroc et qui ont grandi ensemble, qui aujourd'hui se retrouvent dans cette équipe du FUS. Le FUS qui n'avait pas d'ailleurs été champion du Maroc depuis 19 ans et qui aujourd'hui est en train de nous montrer de bonnes choses. Cette équipe qui d'entrée bat le Petro, considéré chaque année comme un des favoris de cette compétition, qui bat le Petro sur la base de son engagement physique, de sa grosse défense et qui aujourd'hui est qualifié parce que le FUS a remporté les victoires qu'il fallait, notamment en battant hier cette équipe des Cape Town Tigers. Ensuite, la deuxième équipe, c'est le Petro qui chaque année est placé mais jamais gagnant. Est-ce que cette année sera la bonne? Au vu des prestations de cette équipe angolaise, on peut avoir quelques doutes, mais on sait qu'elle sera au rendez-vous avec un peu plus de préparation. Peut-être, mais honnêtement, en venant ici, je misais sur le Petro, mais vu ce que je regarde aujourd'hui et de penser que Carlos Moraes a 38 ans et encore le meilleur joueur de cette équipe, je m'interroge. Mais voilà, sur un malentendu, le Petro reste le Petro, faut faire attention. Le Dynamo, malheureusement, est déclassé à cause de ses forfaits. Et puis, les Cape Town Tigers, qui sont pour moi une grosse déception. Une grosse déception parce que je m'attendais à un peu plus de consistance, notamment au niveau de l'effectif, mais pire, au niveau du jeu, les Cape Town Tigers, il n'y a pas de circulation de balles, il n'y a pas de jeu de passe, il n'y a rien.
Malik Dao, ancien champion d'Afrique de basketball et journaliste.
Page de sport VO Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui, c'est VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La Russie organise une élection présidentielle du 15 au 17 mars. Plus de 112 millions de personnes sont appelées aux urnes. Près de 2 millions de personnes à l'étranger pourront également voter. Le scrutin aura également lieu dans les parties de l'Ukraine, contrôlées par les forces russes et soumises à la législation russe. Mais qui est en lice et comment va se dérouler le scrutin? Alexandrine Ollognon a joué en Sibérie orientale. Kemal Afanyan, responsable Afrique de l'Ouest au sein d'Internet sans frontières et observateur de ce scrutin.
Dans le cadre donc des scrutins électoraux qui sont prévus pour les 15, 16 et 17 mars 2024, on retrouve quatre candidats. Le premier, bien entendu, c'est le président sortant qui se présente comme candidat indépendant cette année, comme ce fut le cas en 2004 et en 2018, en la personne de Vladimir Poutine. Donc en dehors de lui, donc on retrouve trois candidats donc issus de partis qui sont directement représentés à la Douma, donc la chambre basse du Parlement russe. Donc il s'agit de Leonid Slutsky du Parti libéral-démocrate de Russie. On a aussi Nikolai Kharitonov du Parti communiste et également Vladislav Davankov du Parti Nouvelle Personne. Les élections seront organisées suivant différents modèles. Donc il y aura le vote électronique, par exemple, le vote par correspondance, le vote également à domicile et aussi le vote consécutif, comme je le disais, donc qui avait été expérimenté par le passé déjà lors de la crise Covid et donc qui sera de nouveau mis en pratique.
Avec la mort de Navalny et le conflit en Ukraine, quels sont les enjeux de ce scrutin en Russie?
Au-delà du fait que ces élections interviennent après la mort de Navalny, donc sa veuve en fait, Yulia Navalnaya, donc s'est récemment prononcée justement et elle demandait donc aux sympathisants de manifester de façon pacifique le 17 mars dans les urnes, écrire le nom par exemple de Navalny sur les bulletins de vote ou bien voter blanc par exemple pour marquer leur suffrage. L'opération spéciale en Ukraine, c'est aussi un des enjeux donc que recouvre cette élection parce que les Russes seront appelés à se prononcer par rapport à ce conflit. Donc c'est un des enjeux également qui sera apprécié donc à travers les urnes. Il y a eu par exemple quelques mouvement embryonnaire de contestation, de femmes de soldats ou de mères de soldats qui sont venus un peu comme de petits éclats, donc marquer un peu le tempo durant cette campagne.
Et quels sont vos défis en tant qu'observateur de ce scrutin?
Donc, en tant qu'observateur de courte durée, vous n'êtes ni un agent de police, ni un membre de la commission électorale, donc votre travail se limite à observer de façon neutre, en fait, les interactions, les événements. De façon globale, il s'agit d'une observation qui doit être neutre, en fait, en fin de compte.
C'était Kemal Afanyan, responsable Afrique de l'Ouest au sein d'Internet sans frontières et observateur de la présidentielle russe.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Togo, la situation sécuritaire dans la région des savanes au nord du pays, frontalière du Burkina, demeure préoccupante. Le gouvernement vient d'obtenir de l'Assemblée nationale une rallonge supplémentaire de 12 mois de l'état d'urgence dans cette zone pour lutter contre les incursions terroristes. Cette prorogation intervient alors que le pays se prépare à des élections législatives et régionales. De Lomé, la correspondance de Kossi Wusu.
Ce sera pour la troisième fois depuis 2022 que le gouvernement sollicite le maintien de l'état d'urgence dans la région des savanes. Les attaques et les incursions terroristes persistent. Achole Akleso, le président du groupe parlementaire majoritaire à l'Assemblée nationale.
Ce projet de loi soumis à notre appréciation vise à poursuivre la prise des mesures qui s'imposent en toute légalité et dans le respect des textes en vigueur dans notre pays en vue de donner tous les moyens nécessaires au gouvernement pour poursuivre la lutte contre la menace et organiser une protection plus efficace de nos populations.
Une protection des populations est nécessaire, d'autant que les élections législatives et régionales sont annoncées pour se tenir dans quelques semaines. Gabi Kwewe, député de l'opposition, s'inquiète de la situation sécuritaire dans la zone.
Ce qui me donne un peu la fièvre, c'est que On apprend des turbulences un peu partout dans les localités de la savane. Ça veut dire que les terroristes peut-être esquivent, n'est-ce pas, la présence des forces de l'ordre et au cours des élections. Comment est-ce que l'État peut s'arranger, n'est-ce pas, pour attaquer?
Au gouvernement, on se veut rassurant. Ce sont des dispositions prises pour une meilleure sécurisation des élections et une protection des populations dans la région des savanes. Colonel Odabalo Awate, le ministre de l'administration territoriale.
Alors que la situation demeure préoccupante au regard de la persistance de nouvelles tentatives et surtout au moment où le Togo se prépare pour les élections législatives et régionales, je voudrais vous assurer que, comme à son habitude, le gouvernement utilisera à bon escient cet outil juridique pour renforcer et garantir un climat sécuritaire sain, favorable sur toute l'étendue du territoire pour la tenue d'une élection apaisée et sécurisée pour tous.
Komi Agbanou, de l'Union des Forces pour le Changement, appelle à une union sacrée de tous les Togolais face aux terroristes.
Face à un combat asymétrique où l'ennemi peut frapper de façon imprévisible, il est dans notre intérêt à tous de soutenir le gouvernement dans cette lutte afin de lui permettre de poursuivre le travail de protection de la population civile et l'intégrité de notre territoire dans cette période où il y aura une consultation populaire.
Outre les forces militaires de l'opération Koundouaré déployées dans la région des savanes pour faire face aux terroristes, 12 000 policiers et gendarmes sont prévus pour sécuriser le processus électoral qui doit aboutir au vote du 20 avril prochain. Kossi Wosou, Lomé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Bénin, de plus en plus de femmes s'investissent dans les métiers autrefois chasse-gardée des hommes. C'est le cas des femmes, qu'elles soient rurales ou non, qui excellent dans le domaine des BTP, plus précisément dans l'installation des panneaux solaires photovoltaïques à usage domestique ou professionnel. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Ferradandé.
Construire un monde dans lequel les femmes sont appelées à exercer n'importe quel métier, c'est le combat de plusieurs organisations non gouvernementales qui se sont données pour mission de former les femmes à prendre leur destin en main. Joséphine Lejuc parle du montage de panneaux solaires photovoltaïques.
Moi, ce qui m'a plus motivée, dans la zone rurale, nous avons beaucoup de personnes, pratiquement les étudiants, les élèves qui sont en difficulté concernant l'électricité, ne vont pas à l'école. Quand ils reviennent à la maison, ils n'ont pas l'électricité pour pouvoir bien apprendre les leçons. Donc, je suis plus choquée par cette situation. C'est pour ça que j'ai décidé de suivre cette formation.
Elles sont nombreuses à se lancer dans les travaux de construction et n'ont pas peur de se retrouver en hauteur, de gérer des chantiers avec leur lot d'exigences et de sacrifices. Pour grâce, les femmes doivent envahir tous les secteurs et démontrer ce dont elles sont capables.
Il n'y a pas assez de femmes parmi ces hommes. Or, en tant que femme, nous pouvions aussi participer à cette activité qui va nous permettre aussi d'intervenir là où les hommes nous croient incapables d'agir.
Aujourd'hui, sur les chantiers de construction, les femmes arrivent à se faufiler, à se démarquer par leurs compétences. C'est le cas de Marie, souvent sollicitée depuis qu'elle a terminé sa formation en BTP.
Nous voyons aujourd'hui que la plupart des femmes ne s'intéressent pas beaucoup à la formation où s'y trouvent les hommes. Pratiquement la formation de technique, par exemple, dans les côtés de bâtiments, nous avons peu de femmes. Or, c'est grâce à nous, c'est une chance à nous, femmes, de s'exercer à face de s'exercer quoi, dans ce métier pour avoir une grande opportunité demain.
Jean-Pierre Durand, qui est un formateur, explique que depuis qu'il est dans le métier, les femmes ont su démontrer leur savoir-faire.
J'estime que les hommes comme les femmes peuvent faire ce travail-là exactement pareil. C'est affaire de compétences et pas de force physique. Donc après, évidemment ici, c'est peut-être un peu, mais chez nous, c'est pas forcément encore rentré dans les mœurs. Hein. Le fait que les femmes soient dans les métiers du bâtiment, ici c'est pareil. Mais encore une fois, avec un peu de tact, on va dire, et puis de volonté, on a des filles qui sont très volontaires par rapport à ça, au même titre que les garçons. Et elles ont leur place, et ça se passe très très bien d'ailleurs, avec les filles aussi bien qu'avec les garçons.
En milieu rural, ce sont les femmes transformatrices de produits agricoles qui sont formées au montage de panneaux solaires photovoltaïques à usage domestique et professionnel. Christelle Adé-Dumont est la présidente de l'association béninoise pour l'éveil et le développement.
Nous avons électrifié 5 centres de transformation agroalimentaire, un local de décortiqueuse de riz, un local de transformation de beurre de karité, un local de transformation de fonio, un local de transformation de jus de mangue séché, fonio également, et enfin à Manta où nous avons électrifié un internat de jeunes filles.
Comme l'indépendance énergétique tant annoncée n'est pas encore une réalité, savoir que les femmes dans les zones rurales peuvent prendre leur destin en main en matière d'électrification est une bonne chose. De plus en plus de voix appellent à multiplier ce type de formation à l'endroit des femmes pour leur autonomisation. De Cotonou, Jeanette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Mali, en ce début de Ramadan, la glace est devenue une denrée de première nécessité à cause de sa rareté. Après une journée sans bois, sous une chaleur accablante, les fidèles musulmans aiment savourer de l'eau fraîche après la rupture du jeûne. Mais faute d'électricité, le prix de la glace a connu une hausse vertigineuse, suscitant de nombreuses réactions dans les grains et les familles. Le reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Au moment de rompre le jeûne, au milieu des plats succulents, l'eau glacée tient une place de choix dans les ménages maliens. C'est donc naturellement avec beaucoup de frustration que Aminata Diop dénonce les difficultés à se procurer de la glace et aussi son prix qui a augmenté en l'espace de 72 heures.
Vraiment, la glace est trop chère à Bamako. C'est cher. Souvent même, on ne voit même pas de glace. Il y a des gens qui vendent à 100 francs, d'autres 150, d'autres même à 250 ou 300. Donc c'est très cher. Souvent, on coupe notre jeûne, on n'arrive même pas à boire de l'eau fraîche. Et ça, c'est trop décevant.
Si lui ne fait pas recours à l'achat de glace pendant ce mois de Ramadan, l'ancien ministre et député Lanceni Bala Keïta reconnaît cependant que cette situation de manque d'électricité prive de boissons fraîches indispensables au moment de rompre le jeûne.
Il y a un grand déficit d'électricité au niveau pratiquement de toutes les villes, même quelquefois dans les petites villes. Je crois que tout ça c'est lié à l'électricité. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui sont utilisés et les gens, même en brousse aujourd'hui, ne veulent pas se passer de la glace. Ce qui fait qu'il y a des enchères et qui font que, voilà quoi, il y a une tollée qui s'est levée.
Vendeuse de glace à Bakodji Koroni, Maïmouna Traoré, qui a augmenté de 100% le prix de ses glaces, donne des raisons.
On vend les glaces à 100 francs parce que nos congélateurs marchent avec des groupes électrogènes. Il faut du carburant, ça consomme beaucoup même. Voilà. On fait le commerce pour un gain. C'est pour cela que nous, on vend nos glaces à 100 francs. Sinon, il y a certaines vendeuses qui vendent leurs glaces à 200, 300.
Dans un communiqué publié ce mercredi, le Front populaire contre la vie chère, présidé par la journaliste Mariam Koné, appelle à un élan de solidarité en cette période de vache maigre pour les Maliens. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Tchad se dirige vers une élection présidentielle censée mettre fin à une transition de 3 ans. Fait marquant, le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby, et son premier ministre Succès Masra sont candidats à ce scrutin qu'une partie de l'opposition considère déjà comme gagné d'avance par le chef de la junte. Comment interpréter les candidatures des deux signataires de l'accord de réconciliation? Comment assurer la transparence du processus électoral au Tchad? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.